Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Une nature, Ella Maillard, une vie d'aventure, une vie à photographier, une vie d'exploratrice, une vie de baroudeuse. Et puis, bien sûr, l'auteur de récits de voyage. Le plus célèbre, La vagabonde des mers. Mais aussi une vagabonde d'un lac. Tout d'abord, le lac de Genève. Genève, le début de l'aventure, en somme. Rediffusion d'une mémoire du siècle proposée en 1994 par Geneviève Ladouès sur France Culture.
Mémoire du siècle. Ella Maillard. Cette femme a la peau tannée et brunie de ceux qui, jour après jour, leur vie durant, ont arpenté l'espace. Cette femme a le regard perçant, plus que bleu, inquisiteur. Et l'on comprend qu'elle n'ait jamais accepté les compromis avec la Suisse douillette qu'il avait vue naître, non plus qu'avec un Occident tout occupé de lui-même, de plaisir et de profit. Une nature, Ella Maillard, qui dit d'elle-même « Je ne notais pas mes émotions ». Je n'étais pas intéressée par moi-même. Et puis, je suis incapable de décrire mon émotion. Je connais mes limites. Je ne peux pas parler de ce qui est profondément moi-même. Les mots me manquent. Ou alors, c'est tellement moche que je détruis tout dès que je l'ai écrit. Elle avait toute jeune choisi de vivre l'aventure à Moscou, dans le Caucase, en Chine, en Inde, en Afghanistan. Ses récits ont fait d'elle une grande dame de la littérature de voyage. Armée d'un Leica, elle a cadré l'horizon, regardé le monde, et les 20 000 clichés dont elle a fait don au musée de l'Élysée à Lausanne sont un témoignage irremplaçable sur ces hautes terres de l'Asie continentale entre les deux guerres mondiales, terres livrées encore aux nomades et aux seigneurs de guerre. Elle a vécu en particulier, en 1935, une mémorable traversée de l'Asie continentale, de Pékin au Cachemire. Elle vit maintenant à Chandolin, dans l'intensité du moment présent. Retour cependant sur les traces du passé.
C'est-à-dire que la vieille Europe sortait d'une guerre atroce 14-18 et qu'en Suisse on ramassait tous les éclopés qui remplissaient les hôtels de luxe pour leur redonner une santé et qu'à partir de 1918 on publiait tous les livres qui n'avaient pas paru pendant la guerre et qui racontaient la guerre comme le feu, Barbus, les croix de bois, tout ça. Je lisais un livre par jour et j'ai vu l'horreur d'une guerre avec, je crois, 6 millions de tués, mais les chiffres et moi sommes en bagarre. Et j'ai pensé, il y avait aussi un livre allemand très intéressant, Le déclin de l'Occident. Je ne savais pas bien l'allemand, mais je l'ai lu la traduction de Spengler. Et c'était un grand économiste. Et ce livre de Spengler a marqué en termes indélébiles cet état décadent d'une Europe où des frères entre Anglais, Allemands, Français, Russes, des frères enfin européens, s'entretuaient. Et ce déclin de l'Occident de Spengler a marqué pour moi d'une manière incroyable le résumé des pensées pessimistes est horrible après cette guerre horrible. Au point que moi, ayant énormément vécu sur des bateaux à voile sur le lac Léman de Genève, et fait énormément de ski avec mes parents déjà en 1920, et décidé, la navigation pour moi avait été un moyen de vivre en plein air avec le soleil, avec l'eau, avec des bateaux à voile sans moteur, naturellement. Il y a beaucoup de bons navigateurs sur le lac Léman. Il y a toujours eu des régates internationales avec les équipages anglais, allemands, américains, etc. Déjà avant le siècle, il y avait de bons navigateurs sur ce lac. Et il se trouve que sur ce lac, on navigue très sérieusement et des régates internationales. Et les gens riches avaient pour manier leur yacht des gens professionnels qui venaient d'Arcachon, qui venaient de Menton, qui venaient de Marseille, de Cannes naturellement. Et il s'est trouvé qu'avec ma voisine Miette de Saussure, quand nous avions 14, 15, 16 ans, nous passions notre temps, pas avec les patrons des yachts, mais avec les marins qui nous apprenaient leur métier. Alors, de ce moment-là, après avoir navigué sur le lac, on s'est dit, tout ça, c'est très bien, mais il y a la mer, il faudrait aller dans le plus grand, ça doit être passionnant. Et à fin décembre 22, nous déménageons toutes les deux à Marseille, il y avait un yacht club où les yachts étaient fermés à clé dans une partie du vieux port. Nos parents étaient contre, nous disaient de revenir à la maison immédiatement, et on leur a écrit... Mais nous avons toujours navigué sur le lac librement, vous nous avez fait confiance, on va faire la même chose à Marseille, les jours de beau temps, on sortira. Et le soir, on est dans le port, fermé à clé du vieux port du Yacht Club de Marseille. Bon, nous acquérons notre liberté, et naturellement, au lieu de rester à Marseille, on a commencé à naviguer le long de la côte, en ayant bien étudié les instructions nautiques, et bien étudié les cartes marine aussi, pour voir s'il y a un coup de chien ou le métier de marin. Conclusion, on a navigué 6 mois, toutes seules, 2 filles, sur un bateau. Nous avions enlevé le moteur pour acheter des pommes de terre et des vivres. On navigue 6 mois, par beau temps, mauvais temps. Donc nous naviguions sérieusement tout le long de la côte pendant tout l'hiver. En retrouvant également des marins professionnels qui nous ont pris au sérieux et qui nous aidaient à faire ce métier de navigateur. Et là, nous rencontrons en 23 Alain Gerbeau, qui s'apprête à partir pour le Pacifique. Tous ses amis à la guerre avaient été tués. Ils avaient décidé de prendre une goélette et de partir vers le Pacifique. Ses amis étant morts, il a dit « je serai seul ». On s'est lié avec Gerbeau. On lui a aidé à appareiller pour sa traversée de l'Atlantique dans le port de Cannes, tout en faisant nos régates. L'année d'après, Miette part pour la Grèce, où elle va rencontrer son futur mari, il ne savait pas à ce moment-là, qui s'appelait Henri Sérig, l'école française d'Athènes, c'était des archéologues. Et là, avec le même bateau, qui avait été sur un cargo pour aller à Athènes, elle va naviguer avec son amie d'école, Marthe Houllier, qui était très littéraire. Elles vont naviguer 15 000 milles en mer Égée, croisière de la Perlette, qui a été publiée d'ailleurs, et elles naviguent donc pendant une année en Grèce. Et l'année d'après, Miette achète un très très vieux rafio, très bon marché, à Marseille, parce que nous voulions être en équipage de 4, si possible 4 filles, parce qu'à bord, dans les alizés, dans la chaleur, on peut prendre des bains de soleil à poil, on n'a pas besoin de faire attention à cause des garçons, etc., etc. On était un peu en avance, cette folie du plein air. Et nous prenons goût de plus en plus à la navigation à voile. Ah bon, à Cannes, quand on était avec Gerbeau, ces messieurs du Yacht Club de France nous donnent une médaille parce qu'on avait eu le courage de naviguer. C'était complètement crétin. J'ai jamais vu 2 filles de 20 ans qui naviguaient sans marin. Et puis, avec Gerbeau qui nous donnait des renseignements sur sa traversée de l'Atlantique et de Panama, là où il fallait préparer les bateaux pour les mers chaudes, il faut doubler la coque de cuivre pour que les vers des mers chaudes ne rongent pas le bois. C'était une chose indispensable. Bon, il y a des trucs pour naviguer qu'on nous apprenions. Nous sommes restés en correspondance. Et donc, sérieusement, nous nous préparons pour suivre les traces de Gerbaud. Nous finissons par trouver le bateau pilote de 15 mètres de long, l'une des meilleures coques qui existent. Nous le transformons, ce bateau, à Lorient. Miette, pour s'amariner, joint une expédition scientifique de la recherche des bancs de thon en hiver dans l'Atlantique. Et à ce moment-là, à Lorient, je surveille la transformation de l'Atalante en bateau avec une baume à rouleau pour prendre des rives facilement, que ça soit moins lourd. On transforme le cotre en ketch, une petite voile derrière, un tapcu, ce qu'on appelle. Et nous continuons notre apprentissage de bon navigateur. On fait la pêche au thon avec ce petit bateau pour bien s'amariner. Et là, catastrophe, Henri Séric de l'école française d'Athènes arrive en France et il se marie. Il s'était connu l'année d'avant, alors sans Miette.
C'était fini.
C'était elle, le capitaine, les logarithmes pour faire la hauteur du soleil avec le sextant. Et alors moi, je cherche à trouver un embarquement sur un yacht anglais pour le Pacifique Sud, aller avec des Anglais qui allaient couramment. C'est comme ça que le fil en aiguille, n'ayant pas de chance d'embarquement anglais, ne voulant pas retourner à Genève, ne voulant pas retourner à Paris, etc., j'avais rien appris pour gagner ma vie, j'avais rencontré à Porquerolles, il y avait Drieu-la-Rochelle et Jean Bernier qui passaient des vacances en 23 à Porquerolles. Et ce Jean Bernier était très très intelligent et s'intéresse à moi, tout à fait innocemment, pas question d'attirance sexuelle, et me dit, tu cherches du travail, nous journalistes, était plus ou moins journaliste ou correcteur dans les journaux d'imprimerie. Quand nous allons en Russie, on ne reste pas assez longtemps pour voir si vraiment les soviets font quelque chose pour la jeunesse. Tu as le temps, pourquoi tu ne vas pas en Russie ? Vivre avec la jeunesse russe et puis nous dire comment va cette révolution. Alors, je finis par avoir mon visa pour Moscou, et alors là, j'aimerais peut-être raconter la première difficulté. Je savais quelques mots de russe.
Mais vous avez écrit que c'est la femme de Jack London, Charmian London, qui vous a donné $50 qui vous ont aussi permis de partir.
Oui, parce que par Gerbaud, avec qui j'étais toujours en correspondance, et je savais qu'il avait réussi sa traversée vers le Pacifique Sud, lui connaissait très très bien la femme de Jack London. Et c'est lui qui m'avait dit qu'elle était à Berlin à ce moment-là pour ramasser l'argent gagné par les livres de son mari. Elle me rencontre, elle me dit ce que je fais. Je lui dis je veux faire un reportage. Et elle me donne $50 que j'ai changé au marché noir à Moscou, d'après ce que me disaient les journalistes étrangers. Et c'est comme aujourd'hui, où les dollars à Moscou valent 10 fois leur valeur. Alors là, le premier jour à Moscou, ça c'est vraiment inoubliable.
C'était comment ?
Parce que je laisse mon barda et ma valise à la consigne, à la gare. Je vais chez Vox en leur disant, aidez-moi à trouver une chambre. Ils me disent, ma pauvre enfant, il y a 6000 personnes qui cherchent une chambre à Moscou en ce moment, c'est introuvable. Tous ceux qui ont faim dans les lointains viennent à Moscou. Enfin bref, j'ai commencé à aller à l'hôtel. J'étais au désespoir. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Je cherche n'importe quelle mansarde. Toute la journée, j'allais d'une adresse à l'autre. Tout d'un coup, j'ai un souvenir que j'avais eu dans mon équipe de hockey sur terre, une Américaine probablement riche, mais j'ai jamais su son histoire personnelle, qui était partie pour Moscou, qui m'avait donné son adresse. Elle avait réussi à dormir chez la comtesse Tolstoï, la belle-fille de Léon Tolstoï, l'écrivain. Ah ben je me dis, je vais aller chez cette femme russe en lui disant que je suis une amie intime, blague, de Jesse Lloyd, qui arrivait de New York, qui était peut-être une famille riche du côté communiste. Je n'ai jamais su son, comment, pourquoi elle avait été en Russie. Jamais su. Je vais chez cette comtesse. J'ai un appartement d'hiver. Il y avait peut-être 8 pièces. 7 ou 8 pièces. Et dans le corridor, quand j'ouvre la porte principale, il y avait des primus le long du corridor. Et j'apprends qu'il y avait 3 familles qui campaient dans un appartement de 8 pièces. Les primus, c'est du pétrole sous pression qui se gazéifie. Et toute la Russie, plein de gens en perdition, cuisinaient sur un primus avec le pétrole. Et plus tard, quand j'ai voyagé seul, un petit primus faisait davantage de flammes avec de l'essence. Mais c'était beaucoup plus dangereux. Et alors, je vis chez cette comtesse dont la fille avait épousé le poète Yesenin. Et alors, cette comtesse qui était, je dois dire, très très sympathique, Olga Konstantinovna Tolstoya, me dit, écoutez, j'ai ma nièce qui travaille dans un bureau officiel. Il y a un petit lit dans sa chambre, un deuxième lit, pas tout à fait grand pour une adulte, et peut-être qu'elle vous louerait ce lit dans sa chambre. Je dis, moi, je dors n'importe où, j'ai fait beaucoup de montagnes. Bref, je m'installe chez la comtesse, mon problème était résolu. Alors, pour finir, je passe 1, 2, 3, 4 mois chez la comtesse. J'avais un primus, naturellement, je savais, et je faisais ma petite cuisine, parce que je n'avais pas assez d'argent pour acheter, pour aller au restaurant. Je faisais comme tout le monde. Moi, ça ne me gênait pas du tout. Et là, je commence à visiter les fabriques de cinéma en disant, je viens pour écrire un livre sur les films russes qui étaient superbes. Je vais d'une fabrique de cinéma à l'autre. Je passe la journée au fond dans des petites chambres de visionnement. Je prends des notes. Il y avait pénurie de papier. Je prenais des notes sur des marges.
Dans des marges
de la place pour écrire.
De livres, de journaux.
Oui, non, le papier de journal était trop moche.
Et vous avez fréquenté des cinéastes soviétiques, comme par exemple Poudovkine ?
Voilà, justement. Alors, ils étaient très intéressés par cette étrangère qui voulait faire un livre sur leur film. J'ai été bien reçue. Et naturellement, je venais de l'étranger. J'avais la possibilité d'acheter des choses qui manquaient à Moscou, comme certains disques de musique, et comme, pour Poudovkine, des lames de rasoir. Parce qu'il y a beaucoup de Russes qui se rasaient tous les jours. Et il y a une question de sympathie. J'ai trouvé que les Russes étaient fantastiquement sympathiques. Des hommes, ce que j'appelle complets, où le cœur et l'intelligence sont également développés. Et on ne peut pas ne pas les aimer. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes. Il y a des peintres, il y a des musiciens, il y a des poètes, ça vous le savez, tout le monde le sait, et des grands écrivains. Et je m'habitue peu à peu, comme ça, à la vie à Moscou.
Mémoire du siècle, Ella Maillard. Ella Maillard à Moscou en 1930, une vie difficile à la recherche perpétuelle de ravitaillement, une vie étonnante faite de surprises et de découvertes.
J'ai commencé à visionner des films, prendre des notes pour mon futur livre et tomber amoureuse de tout ce qui était possible de faire en Russie. Des films ethnographiques en quantité absolument passionnants. Sur toutes les races différentes, dépendant jusqu'au Kamtchatka, jusqu'à la toundra, et les forêts et les grandes rivières qui partent au nord vers l'océan Arctique.
Qui avait tourné ces films ?
Des Russes. Parce que pour eux-mêmes, ils avaient fait des Russes pour les salles russes. Et naturellement que Poudovkine, ses bons films étaient connus à l'étranger. J'ai fait sa connaissance. Il y a eu une très forte sympathie entre nous. Au début, pas du tout intéressé. Mais par la suite, parce que comme je suis revenu plusieurs années de suite en Russie, il voulait que je lui rapporte des choses qu'il ne trouvait pas.
Mais alors, quand vous avez commencé à voir tous ces films documentaires sur tous ces peuples de l'URSS, vous vous êtes dit que vous aviez envie d'aller les voir, les Kirghizes, les Kazakhs, les Mongols, enfin tous ces peuples de l'Asie, parce que l'Asie s'ouvrait pour vous, là, à Moscou.
Naturellement. Et puis alors, bien plus que ça, j'ai vu combien c'était bon marché. Les trains russes étaient d'un bon marché. Les distances immenses, naturellement, c'était pas comme chez nous. Bref, j'ai vu qu'il y avait là une mine pour vendre des articles illustrés. Je pensais pas du tout à un livre, mais j'ai dit là, j'ai de quoi gagner. Et partir à la découverte aussi de la Sibérie. Il y a des quantités de tribus différentes en Sibérie. Il faut du temps. Moi, j'avais du temps. Parce que la plupart du temps, les cinéastes professionnels essayent de faire les choses à toute vitesse. Et moi, j'avais du temps.
Et vous n'aviez pas vraiment et forcément envie de rentrer en Suisse?
Ah, rien ne me ramenait en Suisse, sauf le mal du pays et l'amour du ski. Bon. Non, mais c'était un continent qui s'ouvrait.
Premier voyage pour Ella Maillard, en Géorgie, avec des amis russes, géologues, et puis seule, plus loin, plus à l'est. Combien de photographies aviez-vous ramené du Turkestan, Ella Maillard?
Combien de photographies, quoi?
Oui, aviez-vous ramené du Turkestan, de votre premier grand voyage?
Je n'ai jamais compté.
Jamais?
Jamais compté, non. Ah oui, non, parce que le Turkestan, j'avais 60 rouleaux. Parce que je les ai développés. Moi-même, en plein hiver, par, je crois, moins 20 degrés, en filtrant l'eau de la Moudaria, j'avais tellement peur qu'à la douane, on m'ouvre des films non développés. Et par hasard, quand j'arrive dans un bled absolument total, à Tourtkoul, celui Karakalpak, j'avais mon Leica toujours autour du cou, il y a un homme assez bien habillé qui m'arrête, qui me dit, moi aussi j'ai un Leica. C'était l'architecte chef qui faisait les plans de la nouvelle capitale de la Karakalpakie, tout près de la mer d'Aral. Et c'est lui qui me dit, j'ai tout ce qu'il faut pour développer les films. C'était décembre 32. Un froid de canard, mais il dit il faut filtrer l'eau de la Moudaria qui est plein de sable. Je vous donne mon équipement pour développer. J'avais 60 films, voilà, ça y est, du Turkestan russe.
Est-ce que vous êtes revenu ensuite, la dernière fois que vous êtes allé à Moscou, Ella Maillard, c'était quand?
Je ne suis pas revenu au Turkestan russe.
Et à Moscou?
Je ne suis pas revenu à Moscou parce que je voulais aller au Turkestan chinois, je voulais aller au Pamir, je voulais aller au Népal avant tout le monde. Le Népal est tellement pollué en ce moment, c'est tellement plein d'automobiles, de touristes, c'est atroce, atroce, atroce. Non, non, je voulais terminer, après le Turkestan russe que j'avais vu intelligemment, je voulais continuer cette traversée de Russie. J'avais même été de la croisière jaune, vous vous rappelez? J'avais été voir le commandant Point et M. Citroën en demandant si je pouvais me joindre à eux. Il y avait le père Teilhard de Chardin dans l'équipe et tout ça. Et le commandant Point, qui était beau comme le jour. Et ils m'ont dit, non, non, pas de femme, ça crée toujours des complications. Alors je me suis dit, ben j'irai seule.
Et vous êtes allée seule?
Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Puisque je ne pouvais pas franchir la frontière russe pour aller au Turkestan chinois, il fallait aller en Chine.
Donc vous êtes allé en Chine?
Alors, je vais trouver monsieur, comment est-ce qu'il s'appelait, le directeur du Petit Parisien, qui est mort par la suite. Monsieur Elie Bois. Et je dis, voilà, monsieur, il y a les Japonais qui ont envahi la Mandchourie. C'est extrêmement dangereux. Si les Japonais font la conquête de la Chine, qui est tout à fait moyenâgeuse, nous sommes fichus en Europe. Parce qu'ils ont la technique, ils ont l'argent, ils auront la main-d'œuvre, la Chine, et d'ici 20 ans, nous n'existerons plus, parce qu'ils sont des millions, des esclaves, les Japonais. Et M. Bois m'a dit, combien vous faut-il ? J'ai dit, écoutez, je ne sais pas, pour un an en Russie, je ne sais pas quel chiffre j'ai mentionné, et comme je dors et mange n'importe où, c'était un peu mon... Par rapport à des journalistes européens, je crois que j'étais bon marché. Et il me donne de quoi vivre un an en Asie. Et ça, c'était en 1934, avec la Mandchourie en premier. Qu'est-ce que font les Japonais en Mandchourie? Ils se comportaient comme des cochons, ils étaient détestés partout. Et ça, c'était notre chance, qu'ils ne savent pas se faire aimer. Et notre chance. Et alors, Mao, en quelque sorte, a sauvé la Chine. Tout le monde avait peur de Mao, c'était le communisme. Mais moi, je dis, c'est Mao qui a sauvé. Ça, je suis absolument sûr. Il avait cette armée du peuple. Parce que, alors, à ce moment-là, c'est au printemps 35. Je suis à Pékin et je vois la frousse que les gens ont de Mao. Et moi, je suis persuadé qu'il a fait peur aux Japonais. N'ont pas continué leur conquête. C'est ce que je crois. Mais alors, j'avais l'argent pour aller en Chine. J'avais rencontré Fleming à Londres chez des amis. Il revenait à ce moment-là, il revenait de la Chine du Sud, où il était allé pour une compagnie industrielle anglaise. Et quand nous finissons de dîner, il me dit, je vais partir dans 2 mois pour la Mandchourie. Je dis, moi aussi. Alors il me dit, mais alors venez avec moi dans le Transsibérien, on voyagera ensemble. Et moi je lui réponds, non, moi j'aime la mer, je vais aller en bateau. Il n'était pas content parce que le Transsibérien c'était très ennuyeux pendant, je crois, 8 ou 10 jours. Enfin bref, oui, j'aime le bateau et je pars en 1934.
Une grande voyageuse de ce siècle, Mémoire du siècle, Ella Maillard. Ella Maillard, j'imagine que vous vous souvenez encore les premiers nomades que vous avez rencontrés, les premiers vrais nomades. C'était au Turkestan? C'était en Kirghizie? C'était où?
Il y avait les joueurs de cirque qui sont des vrais nomades, les cirques. J'étais très impressionnée comme enfant. Moi, je voulais partir avec les cirques.
Déjà?
Ah ben oui.
Et vous auriez fait quoi dans un cirque? Vous auriez été clown, trapéziste?
Ah non, je voulais simplement voyager sans arrêt. Changer tous les jours d'endroit, j'ai dit, c'est merveilleux. Parce que quand on change d'endroit, on est très éveillé, on est très intelligent. Quand vous devenez sédentaire, vous êtes complètement endormi, crétin.
Ça va faire plaisir aux Suisses, aux Français et aux Belges et à tous les Européens qui ne bougent pas de derrière leurs frontières.
Ben oui, ça ne me plaisait pas du tout.
Mais alors, bon, quand vous nous avez raconté, vous êtes allé à Moscou, ensuite vous avez commencé à voyager, vous êtes allé au Caucase et puis vous êtes allé au Turkestan. Mais il y a un moment où vous avez rencontré des nomades d'Asie, des nomades de ces hauts plateaux d'Asie centrale.
Mais... Déjà, au Caucase, il y a des nomades. Il y en a un peu partout. Parce que s'ils crèvent de faim chez eux, ils commencent à voyager pour bouffer quelque part. Et alors, c'est au fond, sur le cargo, en allant de Batoum à Odessa, qu'il y avait des tas de types, probablement, d'Asie centrale, où je dis, il faut aller voir ce que c'est. N'est-ce pas? On est motivé par la curiosité. Et si vous avez le pied léger, vous n'avez qu'à partir pour satisfaire cette curiosité. Et moi, je suis comme un petit chat qui arrive sur le globe et la planète. Je veux voir partout où je suis chez moi. Je suis un citoyen de la planète. Et pourquoi me cacher? Bon, il y a encore l'Afrique du Sud et les grandes forêts tropicales. Parce que je n'ai pas la chaleur. Mais théoriquement, j'ai droit à voir où j'habite.
Quand vous voyagez, quand vous étiez sur ce bateau, par exemple, sur ce cargo entre Batoum et Odessa, vous disiez que vous aviez le pied léger comme un petit chat. Qu'est-ce que vous aviez comme bagage? Deux sacs? Un sac à dos?
Mais il y a la photo.
Oui, justement, justement.
Il y a un énorme sac de couchage quand il fait moins 30, vous savez. En Mandchourie, c'est quelque chose d'épouvantable, dormir avec les pieds gelés. On passe son temps à frotter les pieds, on n'a pas le temps de dormir. Non, non. Et puis alors, il y a le sac. Dans les pays affamés comme la Russie, il y avait toujours de quoi manger pendant 10 ou 15 jours. Du porridge, du porridge. J'avais une fois acheté du lard avec la chaleur. Tout d'un coup, en été, le lard a fondu. C'était affreux. Mais il faut apprendre.
C'était en quelle année, ça? 1932?
C'est la fin du voyage.
C'est la fin de ce premier grand voyage.
Ah oui, parfaitement. C'était la fin pour rentrer. J'ai pas voulu prendre le train pour aller prendre sur la mer Caspienne et retrouver la civilisation. Alors j'avais plus d'argent. Alors j'ai branché sur la mer d'Aral. Et quand j'arrive, elle avait déjà gelé. Impossible de prendre le bateau. Et là, j'étais terriblement embêtée parce que j'ai attendu un petit bateau pour descendre la Moudaria, ce grand fleuve. Et en attendant, la mer a gelé. Donc le cargo ne pouvait pas partir, c'était pas que la mer était sèche. Mais ça, c'est des aléas. Et alors j'ai vu sur ce petit bateau au moteur, qu'il y avait peut-être une quinzaine de Russes, ils ont dit, on va hiverner dans ce petit village au nord de Kiva, qui était une grande capitale. Et quand il y aura le dégel, on traversera la mer d'Aral et on continuera le voyage. Moi, je n'avais pas envie de passer l'hiver au bord de la mer d'Aral gelée. J'ai posé des questions. Et le capitaine du petit bateau m'a dit, mais il y a parfois des nomades qui risquent le coup de traverser le désert en plein hiver pour aller vendre leur blé au prix fort près du chemin de fer à Kazalinsk, au nord de la mer d'Aral, et ils vendent leur blé deux fois plus cher que à l'embouchure de la Moudaria. Alors j'ai attendu, je crois, 8 jours au bord du désert qu'il y ait des indigènes qui voulaient risquer le coup, c'était défendu, d'amener leur blé en contrebande à Kazalinsk, qui était là où il y avait le chemin de fer. Donc je suis d'abord restée dans ce petit village perdu, où j'ai trouvé beaucoup d'aide. Il y avait un ingénieur russe qui m'a passé sa chouba, c'est une espèce de pelisse faite avec des peaux de mouton, parce qu'il m'a dit, vous allez traverser en 3 semaines, avoir des froids terribles, il vous faut une pelisse de mouton. Et il n'a pas voulu que je le paye. Je crois qu'il avait un peu pitié de moi. Ça, c'était la fin des Monts Célestes. Et alors, on voit qu'on arrive à vivre avec 3 fois rien et que les gens vous aident partout. Dans ces pays difficiles, il y a une entraide merveilleuse.
Mais vous n'avez jamais eu, on ne vous a jamais rien volé, on ne vous a jamais attaqué?
Ah bien, vous touchez un petit détail. Dans ce dernier village, avant la traversée de 3 semaines du désert, j'avais un petit porte-billet où il y avait autrefois des dollars. Et mon dernier film que j'avais fait sur la Moudaria, j'avais fait le film d'un poisson extrêmement rare. On m'a volé ce négatif que j'avais dans un petit porte-billet. Dans le village où j'ai acheté de la viande de chameau, que j'ai vite coupé en morceaux et fait cuire, parce qu'après, cette viande a gelé. Qu'est-ce qui faisait moins 30 ou moins 32? Et j'ai vu que ce film avait disparu avec... Qu'est-ce que j'avais? Il me restait 7 dollars.
Quelle fortune!
Disparu. Ce qui fait que quand je suis arrivée près du chemin de fer, à Kazalinsk, il me restait juste de quoi avoir un billet sur Moscou et la frontière allemande, si je me rappelle bien. Mais ça, c'est la seule fois où on m'a volé quelque chose. Et je ne sais pas qui ni comment.
Est-ce qu'il vous est arrivé de ne plus avoir un sou du tout et d'être, je ne sais pas, de travailler pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir continuer?
C'est là où j'étais le plus démunie. Et je crois que j'ai bénéficié des voisins dans le train de Moscou pour manger quelque chose. Moi-même démunie, parce qu'à Moscou, j'ai emprunté de l'argent à Madame Tolstoï.
Toujours.
Tolstoïa, parce qu'elle savait que j'allais revenir.
Et vous l'avez revue une autre fois, Madame Tolstoï?
Ah, mais je lui ai renvoyé un manteau d'hiver pour sa petite fille qui n'avait pas de manteau d'hiver. J'ai pu lui faire parvenir, je crois que j'ai amorti ma dette. Et puis on était devenus amis aussi en même temps. C'était vraiment une femme merveilleuse.
Quel âge avait-elle?
Ah, je n'ai pas la moindre idée. Mais elle était très noble, enfin dans son comportement, son allure très très distinguée. Je ne sais pas quel âge elle avait. Ah, moi je n'ai pas de mémoire pour les chiffres. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Une heure après, j'oublie les chiffres. Ça fait pas tâche dans ma mémoire.
Mais quand même, si je vous demande en quelle année vous avez rencontré Peter Fleming, vous vous en souvenez?
Ah, je sais, la veille de mon départ pour la Mandchourie, puisqu'il avait le même but. C'est facile de se rappeler.
Qu'est-ce que vous aviez pris comme bateau? Un cargo qui partait
d'où? Non, c'était les messageries maritimes qui desservaient Shanghai.
Un vrai paquebot. C'était un bateau qui partait d'où? De Marseille?
De Marseille.
Vous avez donc traversé la Méditerranée, le canal de Suez?
Oui.
L'océan Indien?
Oui, c'est là. On s'arrête à Saïgon. Il y avait 3 jours pour aller à Angkor. Je dis, je ne vais pas à Angkor pour 3 jours, ce n'est pas question. Quand j'irai, passerai 10 jours. Ne pas brûler Angkor à toute vitesse, non. Il y a pas mal de gens du bateau qui ont essayé de voir Angkor à toute vitesse.
Mémoire du siècle, Ella Maillard. Et donc, ce bateau vous a emmené où exactement ?
À Shanghai.
À Shanghai.
Je suis sortie à Shanghai. J'ai été sur le journal de Shanghai qui était plein de Français. J'ai dit, je viens pour le petit Parisien. Et là, il m'a dit, il y a un message pour vous. J'ai dit, un message pour moi? Je tombais des nues. Et c'était le meilleur ami de Henri Sérig, monsieur Hopneau, qui était le chargé d'affaires français à Pékin, qui savait que j'arrivais par le mari
de Miette,
qui était l'ami de Henri Hopneau, le représentant officiel de la France à Pékin. Ça, c'était un coup de chance incroyable. J'étais attendue sans savoir. J'étais attendue. Et comme il était déjà reparti de Shanghai pour Pékin, je ne l'ai retrouvé qu'à Pékin.
Mais dites-moi, Ella Maillard, dans ces années 1935 en Chine, est-ce que vous auriez croisé André Malraux?
Non, il n'était pas en même temps que moi.
À quoi ressemblait la Chine dans ces années-là? Est-ce que c'était un pays en proie à la guerre civile? C'était un pays dangereux?
Non, pas du tout. Il n'y avait pas de guerre civile.
Il n'y avait pas de seigneur de la guerre. La situation politique n'était pas très stable.
Mao n'était pas encore tout puissant, mais on craignait Mao parce que souvent, il affirmait son passage à coups de mitraille. Enfin, c'est un peu plus tard, quand j'étais partie de Pékin pour les Indes, quand nous sommes arrêtés à Xi'an, tout le monde tremblait, y compris les missions catholiques, de l'arrivée de Mao. On disait, mon Dieu, il va tuer les enfants ou manger les bébés, des choses à dormir debout, n'est-ce pas? Il n'était pas du tout un crétin. Mao, mais voulait prendre le pouvoir. Mais là, je ne m'occupais vraiment pas de politique parce que je ne savais pas le chinois. Et simplement, les missions catholiques françaises de Chine me tenaient au courant de ce que disait Mao. Et comme j'avais qu'un but, c'était de réussir ces traversées d'Asie qui devaient, moi, nous sortir de... pas de la misère, parce que lui est très riche, mais que si on réussissait cette traversée d'Asie, on était des pionniers uniques, les autres gens avaient échoué, ils avaient été mis en prison. Et là, Henri Hopneau, le français, m'a rendu un fier service, parce que quand je lui ai dit que le Suisse m'avait dit qu'il ne ferait rien pour moi, il m'a dit, mais venez, vous êtes ici chez vous. Il m'a aidé, il m'a fait rencontrer Teilhard de Chardin, qui était professeur à l'université de Pékin, et c'est Teilhard de Chardin qui m'a dit que le géologue suédois de Svenedin me dirait par où passer, parce que pour échapper au Turkestan chinois, il avait filé par les montagnes.
Mais parlez-moi de Teilhard de Chardin.
Alors, c'était un homme au grand cœur. Certainement, c'était un homme qui était plein d'amour pour son prochain. C'est déjà assez rare. Et puis, il faisait partie de l'expédition Citroën. Eux avaient été kidnappés, en effet, je crois, pendant 15 jours, mis en prison par les musulmans au Turkestan chinois. Donc, il y avait une situation dangereuse. C'est pour ça qu'on est devenu tellement célèbre, parce que ces situations dangereuses, on a passé à travers les gouttes.
Mais alors, Teilhard de Chardin, vous l'avez donc retrouvé à Pékin. Quel genre de discussion avez-vous eu avec lui? Vous avez parlé avec lui?
On parlait de Chine et de la guerre civile, de Mao. Il était au courant. Moi, j'arrivais, je ne savais rien. Mm. Et puis, j'ai passé 5 ou 6 semaines en Mandchourie. Il a fallu que j'envoie mon compte-rendu au journal parisien, il fallait que je me documente. Alors je posais des questions à tout le monde, naturellement, parce qu'autrement on ne peut pas être un journaliste. Si on ne fait pas parler les gens, par soi-même on ne sait rien.
À quoi ressemblait-il, Teilhard de Chardin? Quelle allure physique avait-il?
Ben, il portait la robe, je crois, il portait pas des habits ordinaires, je crois qu'il avait des habits d'ecclésiastique. Il débordait certainement d'amour. Il avait un grand amour du prochain. Et il m'a simplement dit, mais votre recherche, votre besoin d'aller dans l'au-delà, c'est une forme, une manière de chercher Dieu. Je dis, moi, Dieu, je ne sais pas qui c'est, je n'ai jamais cherché Dieu. Et lui voulait me convertir en quelque sorte, j'ai bien vu. Il me disait, vous cherchez Dieu, voilà, lisez ceci, lisez cela. Je ne l'ai pas envoyé au PIV, je n'ai simplement pas réagi. Moi, je voulais traverser l'Asie et terminer ma traversée d'Asie comme Marco Polo. Vous savez, ce nom de Marco Polo est en train de hanter des quantités de gens et de les rendre fous.
Il vous rendait folle, le nom de Marco Polo?
Mais c'était certainement un exemple. Parce qu'alors, là, tout le monde comprenait. Qu'est-ce que tu fais? Hein, je me prépare à traverser l'Asie. Comme Marco Polo? Bien sûr. Non, c'est tellement facile, vous comprenez les gens. Bon, vers la facile. Mais j'avais traversé le Turkestan russe, j'ai vu qu'on pouvait très bien. Mais là, il y avait la guerre civile. Alors, on ne va pas toute seule se jeter dans la gueule d'une guerre civile. Il faut quand même être intelligent.
C'est pour ça qu'il était quand même mieux que vous partiez avec Peter Fleming.
Non, ce n'était pas du tout ça. C'était simplement que... un journaliste suédois était depuis 2 ans en prison parce qu'il avait essayé de traverser le Turkestan. Et que je me suis dit, être seul en prison pendant 2 ans, c'est mieux d'être avec un copain anglais que j'avais rencontré à Londres. Parce qu'il n'allait pas nous tuer délibérément, mais enfermé. Et puis après nous, il y a un Allemand. Il y a d'ailleurs des cartes postales là au musée de l'Élysée à Lausanne. Un aviateur allemand qui avait atterri au Turkestan chinois a été arrêté 2 mois. Donc nous risquions d'être arrêtés.
Mais il y a des photos de vous dans cette exposition, ici au Centre culturel suisse, où vous avez photographié un aviateur allemand en 1937. Je crois.
C'est ça.
Quelque part en Chine, oui.
Voilà.
On voit l'empennage de l'avion avec la svastika.
Exactement, parce que j'ai voulu qu'on sache que notre traversée était très dangereuse et qu'on avait risqué.
d'être arrêtée, pas tuée par les musulmans peut-être, j'ai pas intérêt à nous tuer, mais être des années dans une prison en Asie centrale, c'est pas drôle.
Quand on passe de si longues heures, parce que vous avez passé des heures et des jours avec Peter Fleming, de quoi parliez-vous ?
Ben, on fait des photos, on est mort de fatigue et on essaye de bouffer, de dormir le plus possible. On n'a pas besoin de parler, on n'a rien à se dire. Non, parce qu'il chassait. Alors, s'il chassait des oies sauvages, on avait quelque chose à mettre dans le pot pour donner du goût aux nouilles, parce qu'on fabrique les nouilles au fur et à mesure.
On part avec de la farine et on fabrique les nouilles.
Comme tout le monde en Chine. On les fabrique en l'air. Comment on tire, on les allonge.
On étire la pâte comme ça et on la fait sauter.
On fait des filaments de farine de plus en plus minces. Puis à un moment donné, on coupe et on met dans l'eau bouillante. Et tous les indigènes font ça et tous les restaurants font ça. Un voyage avec la farine.
Qu'est-ce qu'on emporte ? De la farine, du sel, du sucre, du thé ?
De l'ail.
De l'ail.
Pour le scorbut. On est des mois sans verdure. Et puis, de l'alcool. Quand on arrive à l'étape le soir, on est gelé et on prend une bonne cuite pour se réchauffer. Je vous assure qu'on apprend à boire.
Et qu'est-ce que c'était, de l'alcool de riz ?
Non, c'est de l'alcool de shaoju, c'est du kaoliang. Kaoliang, c'est une... Comment est-ce qu'on appelle ça en français ? C'est la céréale qui pousse en Mandchourie. C'est l'alcool le meilleur marché, on avait un petit tonneau. Non, parce que comme on est immobile sur un chameau ou un cheval, on arrive gelé. Alors on commence par chercher du crottin pour faire du feu. Pendant une heure, il n'y a pas de bois. Et puis, on boit un bon coup aussi pour se réchauffer avec l'alcool. Alors le sac de couchage est très très épais, la tente est très petite. Alors on la chauffe rapidement quand on respire comme ça. Mais il faut manger, ça il n'y a pas de doute. Alors on commence par se réchauffer en ramassant du crottin, soit de mouton, soit de chameau. Alors dans les pays un peu civilisés, il y a du crottin de yak, qui est beaucoup plus consistant.
Oui, ce sont des grosses bouses.
Oui, mais il faut qu'elles soient bien sèches pour qu'elles brûlent.
Ella Maillard, Mémoire du siècle.
Mais c'est, moi, par exemple, j'ai jamais soif. Je crois que c'était une très bonne chance d'avoir jamais soif. Parce qu'il n'y a pas toujours de l'eau. Souvent, nous emportions des morceaux de glace pour faire le thé. Quand nous savions que la source ou les sources étaient gelées à la fin de l'étape. Et c'est comme ça, avec l'eau salée, trop salée, à moitié gelée, qu'on a perdu deux chameaux et mon cheval. Il n'y avait plus d'eau douce. C'était le vrai désert. Parce qu'on a quitté les pistes courantes pour échapper au contrôle de la frontière. On a fait plus de 2 semaines, presque 3 semaines, dans un parcours sans eau douce. Ou eau très salée. Enfin, plus ou moins salée.
De l'eau saumâtre.
Saumâtre. Et ça a été notre succès. C'était grâce au père Teilhard de Chardin qui m'a dit « Vous vous lancez dans quelque chose de très dangereux, il faut absolument rencontrer Erik Norin, le géologue de Svenedin, le grand explorateur Svenedin, parce que Norin a échappé à la menace des musulmans qui voulaient le convertir à l'islam à la pointe de l'épée en partant droit au sud de la piste de caravane du Turkestan chinois. Il est monté à 4000 mètres d'altitude au Tibet pour échapper aux musulmans. Et c'est nous qui avons pris cette piste à l'envers pour déboucher en plein Turkestan chinois comme venant hors du ciel. D'où est-ce que vous venez, qui est tout ? Et là, les gens, autant que c'est en chinois, nous ont pris pour des espions russes, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui pouvait lire nos passeports. Qu'est-ce qui vous intrigue encore ?
Mais une chose, lorsque vous avez... deux choses. D'une part, Peter Fleming a écrit une lettre, et vous a envoyé une lettre, disant que lui tout seul, il n'aurait jamais fait ça, mais que vous, toute seule, vous auriez pu le faire.
Il a écrit ça, je crois, au moment de mourir. Et je ne sais pas pourquoi il a eu cette espèce de remords de me mettre en avant. Je crois qu'il se sentait un peu fautif, parce que quand il est arrivé en Angleterre, tout le monde a chanté ses louanges, et personne ne parlait de la petite Suissesse qu'elle est là pour chauffer son sac de couchage, quand il faisait très froid, n'est-ce pas, des histoires comme ça. Et je crois qu'il était un petit peu... Je sentais qu'on m'avait, pas méprisé,
maltraité.
Mais on m'avait laissé. Et moi j'étais très surprise de recevoir cette lettre, où il disait que j'aurais pu le faire sans lui. Ça, je n'en sais rien. Mais la femme, il faut savoir mentir. Personne ne comprend en Asie qu'une femme voyage seule. Et je racontais toujours que j'allais rejoindre mon mari à Kashgar, qu'il fallait que je traverse le désert pour rejoindre mon mari qui m'attendait. Ils ne comprennent pas. Enfin, il faut mentir.
Et l'autre chose que je voudrais savoir, Ella Maillard, lorsque vous nous avez dit, quand vous avez rencontré Teilhard de Chardin à Pékin, Teilhard de Chardin vous a dit, bon, mais ma petite, si vous voyagez comme ça, c'est parce qu'en fait, vous cherchez Dieu. Bon.
Et non, parce qu'il me pose des questions.
Oui, et ça vous a fait un peu rire. L'idée...
Non, ça ne m'a pas fait rire. J'ai vu qu'il faisait son métier.
Oui, mais vous n'avez pas forcément prêté attention à ce qu'il vous disait. Et est-ce qu'au bout du compte, après toutes ces années, qu'est-ce que vous cherchiez ?
Attention, vous partez là dans votre imagination. Quand un homme de la valeur de Teilhard de Chardin vous dit quelque chose, vous faites attention. Moi, j'ai simplement répondu, je ne sais pas ce que c'est que Dieu, et je ne sais pas comment chercher quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Parce que pour lui, c'était tout simple comme langage. Je lui ai fait comprendre que je n'avais pas le même langage que lui. Il y a un mystère de la création. Évidemment que ce mystère de la création, nous sommes tous à genoux devant le mystère de la création. Et nous sommes tous enfants de ce mystère. Mais lui voulait l'appeler Jésus-Christ, et puis il faisait un point oméga, qu'on allait tous faire le point oméga, où on était un avec Jésus-Christ. Tout ça, c'est des balivernes, n'est-ce pas, de personnages qui veulent faire fructifier sa religion. Alors moi, je ne marche pas dans la combine. Nous sommes tous à genoux devant un mystère primordial. Qu'est-ce que c'est que ce Big Bang ? Et qu'est-ce que c'est qu'un univers en expansion ? Comment tout ce qu'on raconte aujourd'hui, on voit les problèmes insolubles. Mais nous sommes le résultat d'un mystère fondamental qu'on appelle Allah, Dieu ou le Bouddha, c'est simplement l'ultime inconnu. Alors, lui affirme que le Fils de Dieu est venu sur terre pour nous sauver. Ça, c'est le catholique convaincu qui tire la couverture à lui. Alors j'ai dit, alors avant Jésus-Christ, il n'y avait personne qui savait le mystère suprême ? Je ne sais pas quoi répondre. Il y a toujours eu des sages.
Mais justement, cette sorte malgré tout de voyage intérieur, d'approche ou de question ou de questionnement sur le mystère, c'est quelque chose que vous avez fait plus tard, ça ?
Mais tout le monde se questionne sur l'origine de la création.
Plus ou moins.
Mais bien sûr.
Mais... est-ce que vous vous posiez tout autant ces questions à cet âge-là, quand vous aviez 30 ans, 35 ans, que plus tard ?
Je n'ai jamais fait d'études scientifiques. Je n'avais jamais discuté avec un scientifique éclairé. Naturellement que c'est une question que nous avons tous en nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui répond ?
Quand en Inde, vous avez cherché un sage ou... Vous avez cherché des réponses.
Attention, ça c'était en 34, le départ de Pékin, 35. Je rentre en Europe, il y a un monsieur Hitler qui faisait trembler tout le monde, Et attention, en 35-36, on le craignait déjà, on savait déjà qu'il armait à outrance et qu'il allait faire des bêtises épouvantables. Donc, on allait vers une seconde catastrophe majeure. Il y avait déjà eu des millions de morts dans une guerre mondiale. Et alors, moi, j'ai commencé à réfléchir.
Donc, vous disiez en... La Maillard, en 34-35, on savait que la guerre mondiale allait arriver.
C'était atroce. Atroce. Parce que moi, j'avais déjà la guerre de 14-18 qui m'avait complètement bouleversée. Complètement. Une crétinerie pareille, c'est immonde.
Et donc, votre tentation, ça a été de fuir cette guerre et d'aller ailleurs
dans... Non, de me poser des questions fondamentales. Voilà qu'on recommence une hécatombe de millions d'êtres humains à cause d'un fou. Alors on se dit, mais le monde est fou, n'est soi-disant intelligent, c'est pas possible. Alors là, on se tourne. La sagesse de l'Asie, attention, la Chine était sage 2000 ans avant notre ère. N'est-ce pas? Les catholiques prétendent qu'il a fallu Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, qu'est-ce que c'est 2000 ans avec l'âge de la planète? Alors avant 2000 ans, tout le monde était crétin? Moi je dis qu'il y a toujours eu des sages. Ah, comment? Pourquoi? Ben, il faut savoir lire les traductions du chinois, enfin, il faut réfléchir. Ben, Teilhard n'était pas content. Quand je lui disais alors avant Jésus-Christ, tout le monde était crétin? Alors, quand on est au désespoir en prévoyant une hécatombe de nouveau de millions et millions d'hommes de toutes sortes avec une guerre mondiale, on commence à réfléchir, on vieillit et on cherche une réponse. Alors il faut voir ce qu'ont dit les bouddhistes, qu'ont dit les hindous, qu'ont dit les japonais zen. On commence à lire.
Combien de temps est-ce que vous êtes resté en Inde?
Ben, je suis resté toute la guerre, 5 ans, je ne pouvais plus revenir. Et par la suite, je suis retourné chaque année en menant des touristes en Asie. Je renvoyais les touristes en Europe et je retournais auprès des maîtres, des sages. Non, une fois qu'il faut approfondir, si on a quelque chose que ça tient debout, il faut continuer.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 décembre 1994.